Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur les alliages métalliques, là aussi quelque chose qui est très ancien et en même temps en développement constant, j'ai le plaisir d'accueillir André Pinault. André Pinault, donc il va nous montrer in abstracto et in concreto tout ça. Il est né en 1941, il est ingénieur civil des mines et docteur en sciences. Il a été chercheur responsable de groupe de recherche métallurgie métallique au Centre des matériaux de l'École des mines de Paris à partir de 1973, directeur de l'unité associée du CNRS métallurgie métallique au Centre des matériaux de l'École des mines, et il est actuellement professeur à l'École des mines de Paris, responsable de l'option sciences et génie des matériaux. Ses spécialités, c'est la métallurgie mécanique, la métallurgie physique, changement de phase et mode de durcissement des alliages, mécanique de la rupture, approche de la rupture et de la fatigue des matériaux. Il a reçu de très nombreuses distinctions et importantes, j'en cite quelques-unes, médaille d'argent du CNRS en 89, lauréat de l'Académie des sciences en 92, médaille d'or de la Fédération européenne des sociétés matériaux en 97 et grande médaille de la Société française de métallurgie et des matériaux en 99. Il est auteur de publications spécialisées et techniques dans des revues à comité de lecture et d'ouvrages de synthèse, dont un ouvrage d'enseignement qui a été rédigé en collaboration sur le comportement mécanique des matériaux aux éditions et chez Hermès en deux volumes. Et cet ouvrage a été traduit en anglais. Donc, comportement mécanique des matériaux, édition Hermès, volume 1, 91, volume 2, 93. Parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont réellement intéressés de manière très pointue aux choses, donc je le cite ainsi. Je lui donne la parole pour 50 minutes, et puis après, vos questions. Merci.
Merci. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette série de conférences consacrées aux matériaux, donc on m'a demandé de vous parler des alliages métalliques, plus particulièrement, j'allais dire, des problèmes que l'on rencontre que rencontrent les ingénieurs, les chercheurs, quand on veut utiliser ces matériaux dans des conditions extrêmes, comme l'indique le titre. En préparant cet exposé, j'ai pensé que ces conférences s'adressent, je crois, aux gens depuis 0,7 jusqu'à 127 ans. J'ai choisi délibérément, et j'espère avoir fait un bon choix, de faire très concret. Je pars du principe qu'on a un tout jeune, là, qui s'est manifesté il y a à peine 2 minutes, et que je vais essayer de lui enseigner les bases un tout petit peu de la métallurgie et puis lui faire comprendre la grande spécificité par rapport aux matériaux dont vous avez entendu parler maintenant, ce qui différencie les métaux, des verres, des céramiques, c'est avant tout la plasticité. Je pense que vous en êtes tous convaincus, vous l'avez tous vécu. J'ai entre les doigts un morceau de zinc. Si je le plie à la température ambiante, je peux faire des nœuds, il se plie, il ne se casse pas. Donc ça, c'est le côté très spécifique des matériaux métalliques. Alors, il s'agit là, bien entendu, d'un sujet qui est extrêmement vaste. De tout temps, vous le savez, les métaux ont été, parmi les différents matériaux qui existent, ceux qui ont joué certainement un rôle prépondérant. On se réfère, quand on parle de notre civilisation, de la civilisation du bronze, de la civilisation du fer. La civilisation de l'acier, elle est très récente, contrairement à ce que l'on pense. Le procédé Bessemer, qui est à l'origine de la fabrication de l'acier, tel qu'on le connaît maintenant, ne remonte qu'au milieu du XIXe siècle. Tous les ans, je vais avec nos étudiants et à d'autres occasions, faire le tour dans une usine, par exemple, où on fabrique des aciers, et on trouve toujours des appareillages qui, moi, me fascinent toujours autant. Ça, c'est une photo qu'on a prise au mois de février avec des élèves où nous étions en cours de visite. Vous avez ici une énorme poche qui contient 250 tonnes d'acier à très très basse teneur en carbone, 20 ppm de carbone. 20 ppm de carbone, quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y a déjà quelques mois de ça, C'était des matériaux qu'on trouvait simplement en laboratoire. Maintenant, on produit ces 250 tonnes en moins de 30 minutes et un matériau qui ne coûte que 4 à 4,5 francs du kilo. Donc on va parler un petit peu de coûts de matériaux. C'est des choses qui sont absolument fascinantes. Bien, alors pour préparer cet exposé, je dois parler des conditions extrêmes. Alors les conditions extrêmes, les pauvres matériaux métalliques sont soumis à toute espèce de conditions extrêmes. Il y en a une tout de suite dont je ne vais pas parler, mais qui est extrêmement importante, c'est la tenue à la corrosion. Vous savez qu'en Inde, il y a une colonne qui a 1600 ans, qui est en fer, on ne connaît pas bien la nature, et elle est là et elle ne rouille pas. En règle générale, néanmoins, les problèmes d'oxydation sont extrêmement importants. Je vous rappelle que la tour Eiffel est constamment en état de peinture, et c'est pour ça que nous avons encore la tour Eiffel. Donc, si vous voulez bien, ayant éludé un peu ce problème de tenue à la corrosion, je m'en tiendrai au problème de tenue et aux propriétés mécaniques. Et comme condition extrême, j'ai choisi les très basses températures. Pour les très basses températures, Ariane a lancé son 99e vol, je crois, hier soir. J'aurais pu prendre le moteur Vulcain, où on travaille à très basse température. Je vais plutôt prendre les problèmes de transport de gaz liquéfié. Le symétrique ou l'antisymétrique des très basses températures, c'est les très hautes températures. J'aurais pu prendre des tas d'exemples, comme les réacteurs chimiques, travaillant depuis déjà pas mal d'années en étroite collaboration avec la SNECMA. J'ai naturellement été emprunté un certain nombre de transparents et d'objets, j'espère vous montrer, concernant les moteurs. Donc là, on sera dans le domaine du transport, ça nous concerne tous. Et j'essaierai de vous faire comprendre un peu où sont les enjeux matériaux. Et puis, il y a un domaine entre les deux que je vais essayer d'illustrer, bien entendu, en quelques minutes. On ne va pas le faire de façon détaillée. Je traiterai les très grandes vitesses. Les très grandes vitesses, évidemment, ça intéresse les militaires, ça intéresse les gens qui font de la mise en forme. Et parfois, quand nous n'avons pas de chance, nous faisons de la mise en forme avec nos propres automobiles. Donc je parlerai d'un problème qui est extrêmement important. Si vous allez au salon de l'automobile, on parlera beaucoup de la tenue des voitures au crash. Donc je vous parlerai de très grande vitesse. J'ai prévu de parler, mais je ne suis pas sûr de pouvoir tenir le temps, de problème d'irradiation. Soyez rassurés, dans les expériences que j'ai préparées, aucune ne concerne l'irradiation, donc vous vivez dans des conditions complètement sûres. Alors, quand on regarde un matériau métallique, on dit que c'est vieux. Ben non. Tout se refait, tous les jours. Et pour ce faire, j'espère avoir trouvé la bonne position. Je vous montre ici un morceau de lingot d'or nordique. C'est le Nordic Gold. Vous voyez des grains. Manifestement, là on a la chance d'avoir des grains qui font plusieurs centimètres de longueur. Donc la première caractéristique d'un matériau métallique, c'est que c'est un matériau granulaire. Je vais mettre l'accent au cours de cet exposé beaucoup sur les problèmes de tenue de joints de grains. Alors le matériau que je vous montre, c'est celui que vous aurez dans vos poches dans maintenant 18 mois, puisque c'est le matériau qui va servir à fabriquer les pièces de jaune, de l'euro. Alors, je m'en suis fabriqué une. Évidemment, elle n'est pas frappée avec, puisque je n'ai pas le droit de frapper les pièces. Bien. Donc, à partir de là, pour les gens qui ne le savaient pas, les matériaux métalliques, tout de suite, il y a des grains. Les grains, la nature des joints va être extrêmement importante. La taille des joints va être extrêmement importante. Et un des messages que je veux laisser peut-être aujourd'hui, si vous me permettez, c'est que pour certaines applications, on a intérêt à faire du tout petit grain, et il y a une lutte permanente pour faire du tout petit grain. Et puis pour d'autres applications, on a intérêt au contraire à faire des matériaux à très gros grains, et je vais même pousser le raisonnement jusqu'au bout, aller jusqu'à fabriquer des matériaux monocristallins. Un chiffre simplement pour l'importance des matériaux métalliques, ces chiffres pour ceux qui assistaient à l'exposé de dimanche dernier de Paul Acker, vous avez vu sur le tableau que l'acier, par exemple, apparaît juste après le béton en termes de masse. La production annuel d'acier est de l'ordre de 800 millions de tonnes. Je me suis amusé à faire un calcul. Si on transforme ça sous forme de tôle de 0,5 mm d'épaisseur, pratiquement, on peut faire un hangar complet par an qui recouvre le territoire français. Donc ça vous donne une idée un peu de l'importance, disons, des matériaux métalliques au point de vue poids. Alors, les conditions extrêmes, je les ai détaillées. En construisant cet exposé, disons, il m'est apparu absolument indispensable de rappeler un certain nombre de traits caractéristiques concernant les matériaux métalliques. Alors, j'ai déjà parlé, donc là, je vais passer à peu près une vingtaine de minutes, si j'arrive à bien me chronométrer moi-même, sur ces deux parties, et en une trentaine de minutes, je traiterai, si vous voulez bien, les applications. Alors, j'ai déjà parlé de taille de grain. Je vous l'ai montré. On a des champs, on a parfois des situations telles qu'on peut les voir à l'œil nu. Mais je vous ai dit que pour beaucoup d'applications, les tôles d'acier que vous avez dans vos voitures automobiles, vous pouvez les polir. Vous ne verrez jamais la taille de grain. À l'heure actuelle, on est en train de fabriquer des aciers très modernes. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, pratiquement, on considère que tous les 5 ans, il y a un renouvellement pour plus de la moitié des nuances d'acier. Donc, à l'heure actuelle, on est rendu à peu près à 5 microns. Alors, 5 microns, là, le grain est beaucoup plus gros. Et puis, dans l'acier, il n'est pas coloré. Alors, pourquoi c'est coloré ici? C'est parce que la technique d'observation des joints de grain, c'est de la diffraction d'électrons rétrodiffusés, et qui est une technique qui s'est largement répandue maintenant depuis une petite dizaine d'années, et qui nous permet de connaître l'orientation de chacun des grains. Donc, chaque couleur dans cette micrographie correspond à une orientation. Donc, vous comprenez aisément que quand on va passer, par exemple, du mauve, je suis un peu daltonien, j'espère que c'est du mauve, au vert, eh bien, il y a une désorientation, et cette désorientation, elle se traduit le long d'une surface, on va voir ça à trois dimensions, je vais vous faire un schéma dans un instant, la désorientation des joints va être extrêmement importante. Donc on a un moyen d'action, déjà, sur le comportement mécanique des matériaux, c'est en texturant, en ayant soit une texture complètement au hasard, ou une texture, au contraire, préférentielle. Alors, pour étudier à cette échelle-là les propriétés des matériaux, la métallurgie, comme tout l'ensemble des sciences, s'appuie énormément sur la simulation numérique. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est un cube dans lequel on a implanté, par un processus que je ne veux pas détailler, dont le responsable est dans la salle, des grains à l'intérieur. Et ce n'est pas pour faire joli qu'on a mis un maillage, vous voyez, un treillis ici. Ça, c'est un maillage par élément fini. C'est un maillage par élément fini qui, par l'intermédiaire de la mécanique des milieux continus, va nous permettre de beaucoup mieux connaître ce qui se passe du point de vue de la mécanique à l'intérieur des grains. Ça, c'est une chose qui est apparue simplement depuis une petite vingtaine d'années, presque 10-15 ans. C'est le passage constamment du gros lingot dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de l'échelle macroscopique, à l'échelle mésoscopique, c'est mon cube, et puis à l'échelle de plus en plus microscopique. Et ça n'est pas suffisant de regarder simplement la structure granulaire. On est obligé d'aller beaucoup plus finement. Donc je vais devoir faire quelques références plutôt relevant de la physique du solide. Alors ce qui les caractérise dans les matériaux métalliques, c'est quatre choses importantes, entre autres. Alors la première, c'est, la densité. Alors, les matériaux métalliques, ils sont denses, ils sont donc lourds. Je rappelle la densité de l'acier, enfin du fer, 7,8, l'aluminium, 2,7. Le métal d'utilisation mécanique, qui est en train de se répandre pas mal dans l'industrie automobile, c'est le magnésium. Une entreprise allemande met à l'heure actuelle 20 kg de magnésium par voiture. réalisait bien que si on mettait dans toutes les voitures 20 kg de magnésium, il nous faudrait plus de 300 000 tonnes de magnésium. Or, nous ne les avons pas à l'heure actuelle. Nous ne produisons, je crois, à l'échelle mondiale, que de l'ordre de 150 000 à 200 000 tonnes de magnésium. Donc les problèmes de matériaux dans ce domaine deviennent très rapidement stratégiques. Alors, ils sont lourds parce qu'ils sont denses. Ils sont denses, ils ont donc une structure qui est extrêmement compacte. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Disons, on a des structures cubiques à face centrée, avec les atomes au centre des faces, ou des cubiques centrés avec des atomes, l'atome au centre du cube. Alors, cette idée de matériaux lourds, je vais essayer de vous montrer dans un instant comment les gens qui inventent des matériaux métalliques essayent d'inventer précisément des matériaux dont la densité est beaucoup plus faible. Alors, je repasse en revue un petit peu les propriétés importantes. La conductibilité électrique, c'est évident. Elle est due au fait qu'un matériau métallique, ce sont avant tout des atomes qui sont sous forme d'ions et puis entourés par un nuage d'électrons. Et cette conductibilité thermique et électronique est due précisément à ce gaz d'électrons. Il y a une autre propriété qui est importante, c'est que ce sont des matériaux qui s'allongent avec la température, sans faire de théorie bien savante. Ceci est lié aussi à ces problèmes de liaison atomique, mais comme les liaisons sont très très fortes dans la liaison métallique, eh bien les atomes, quand on chauffe, ne s'écartent pas trop. La tour Eiffel, entre l'hiver et l'été, ne s'allonge que de 20 cm. J'ose pas imaginer, si la tour Eiffel était faite en polymère, de combien elle s'allongerait. Elle s'allongerait de 10, 20 fois, 30 fois, 40 fois plus. Ça, c'est parce que la liaison covalente est de nature, dans les polymères, est de nature complètement différente de la liaison métallique. Donc nous n'y pouvons pas grand-chose, à moins de ruser, et j'essaierai avec une application de vous montrer qu'il y a moyen de ruser, quand on connaît bien la physique du solide, pour trouver des matériaux qui pratiquement se dilatent pas plus que les verres. Enfin, la dernière propriété que je voudrais souligner, c'est le comportement mécanique. Ce sont des matériaux qui sont extrêmement élastiques. J'ai ici préparé une petite expérience. Je voudrais faire la flexion d'une poutre. J'ai été découper un morceau d'aluminium. Il est traité, j'espère. Je le ploie sur la poutre. On le voit, j'espère. Non ? Ou faudrait-je le mettre sur le rétro ? Je vais le mettre sur le rétro. Ça va ? Bon, alors faut que j'entende. Bon, alors vous me faites confiance, mais je vais faire une étude comparative. Mon morceau de métal est resté sous la forme initiale. C'est l'élasticité. Alors il se trouve que pratiquement dans tous les matériaux, on a une relation, je vais écrire très peu d'équations, ça va peut-être être la seule, qui relie le module de Young à oméga, c'est le volume atomique, le volume moyen qu'occupe un atome, et K, c'est la constante de Boltzmann, T indice F, c'est la température de fusion, et K indice F représente l'énergie que l'on peut mettre dans un cristal sous forme d'agitation thermique, et vous avez cette relation assez simple qui est assez bien vérifiée. Donc revenons d'abord sur le premier point, la densité. Alors quand on porte sur ces cartes la variation de la... je pense que bien important, c'est pas mal. Quand on porte la variation du module de Young en fonction de la densité, les matériaux métalliques se trouvent ici, à droite, c'est-à-dire que ce sont les matériaux, comme vous voyez ici, qui ont les valeurs de modules de Young assez élevées. Alors bien sûr, le diamant est bien plus encore une résistance à l'élasticité encore plus importante. Et ce sont des matériaux qui sont extrêmement denses. Il est difficile d'aller contre ça, puisque, comme je l'ai indiqué, c'est lié à la structure essentiellement des matériaux de la liaison métallique. Néanmoins, il existe des matériaux. J'en tiens ici entre les doigts. Ceci est un bloc d'aluminium. Si j'arrive à le porter avec ma faible force aussi facilement, ça ne pèse que 200 grammes, c'est qu'il y a beaucoup de vide. Il y a 90 à 95% de vide dans ce bloc d'aluminium. Donc c'est de l'aluminium poreux, il flotte. S'il flotte, ça veut dire que les porosités ne sont pas ouvertes, sinon l'eau s'infiltrerait à l'intérieur. Donc c'est un matériau avec une porosité fermée. Il est très peu dense. Et j'essaierai, quand on va parler de crash automobile, de vous dire ce à quoi pourrait bien servir ce matériau qui n'est pas encore industrialisé, qui est juste en train de sortir des laboratoires. Le deuxième exemple, l'a emprunté à l'industrie électronique, c'est ça. Alors ce que j'ai posé ici, c'est une mousse, mais c'est une mousse non pas identique à celle que vous utilisez quand vous vous asseyez sur un siège, type mousse de polyuréthane. C'est une mousse de nickel. On en fabrique celle-ci, la densité, on voit à travers, elle est très très faible. Là, la densité est un peu plus grande. Là, on est rendu au stade où on a... Ouais, on voit. Bon, elle est tellement grande qu'on ne voit pas. Cette mousse de nickel, c'est celle que vous allez avoir dans votre téléphone portable, dans vos ordinateurs, pour fabriquer les batteries. Donc, il s'agit d'un matériau de mousse de nickel. J'insiste bien sur l'aspect très légèreté ou l'aspect fonctionnalité. Donc, j'en discutais encore hier matin avec des gens qui travaillent plus dans le domaine de l'acier. Il y a une possibilité, en introduisant des vides, de faire des matériaux métalliques qui soient très peu denses. Bien, alors ça, c'est un des aspects importants. J'ai une micrographie qui montre un petit peu comment... voici la mousse de nickel. Je ne sais pas si je dois le voir en... Voilà, ou c'est peut-être meilleur comme ça. Voilà, une structure. Ce sont des alvéoles qui font simplement une cinquantaine, une centaine de microns. Et puis, à côté, ce n'est pas de la mousse métallique, c'est un morceau d'os. Les grandissements sont quasiment les mêmes. Il y a une forte ressemblance entre les deux types de matériaux. Bien, alors ces rappels étant faits, comme j'ai choisi d'illustrer surtout l'application à usage mécanique, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelques rappels de comportement mécanique de matériaux. Alors pour ce faire, je vais utiliser un diagramme très simple. Imaginons que j'ai une poutre, et cette poutre, je veux la cisailler. C'est ce qu'il y a dans la partie ici de ce transparent, à gauche. La poutre, je peux la cisailler. Si je relâche l'effort, elle revient à la position initiale. Ça, c'est le domaine de l'élasticité. Ça veut dire que sur la courbe, avec mon montage où j'applique un effort, j'applique ici un moment, j'ai un déplacement, la courbe contrainte déformation, et sur la partie verte, le comportement est élastique, linéaire, réversible. Bon, si on avait à traiter que de l'élasticité, les cours de mécanique des milieux continus dans nos écoles d'ingénieurs seraient beaucoup plus courts. Heureusement, la situation est beaucoup plus riche. On a en effet des comportements qui sont non linéaires, c'est-à-dire que la courbe s'infléchit. En règle générale, cet infléchissement, il est dû à la plasticité qui apparaît dans le matériau cristallin. Alors cette plasticité, pour comprendre quelque chose, pour renforcer les matériaux, on est obligé de rentrer dans le détail. Et quand on rentre dans le détail, c'est un peu une image très naïve que j'ai voulu faire ici, qui indique que la plasticité n'est pas homogène, mais elle se produit le long de plans de glissement. Et ce qui est à l'origine de cette plasticité, ben, ce sont des objets. C'était d'abord un concept, juste avant la guerre, qui a été beaucoup développé ensuite par les physiciens, en particulier à partir des années 50, 60, 70. C'était la grande époque des dislocations, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Bon, alors si on est un petit peu plus curieux, si on relâche l'effort, si on est en situation de plasticité, le matériau se décharge de façon élastique avec un module égal au module initial. Bon, on a des cas de figure où la situation est complètement différente. On a le cas correspondant au diagramme indiqué en rouge, où là, la courbe de déchargement, bon, elle hésite au début, c'est un petit peu élastique, et puis pratiquement le solide veut retrouver sa forme initiale. Ça s'apparente à ce qui se passe dans les élastomères, quand on a de l'élasticité non linéaire. Et le point que je veux souligner, c'est le fait que ce comportement-là, il est dû au fait que le mécanisme même de déformation est complètement différent. Cette fois-ci, imaginons que j'ai un cristal qui soit blanc, et puis pour une bonne raison, parce qu'on a bien étudié le matériau, sous l'effet de la déformation que l'on impose, il se transforme en cristal rouge. Cette transformation, si elle est réversible, j'ai eu comme professeur de thermodynamique M. Fer, il m'aurait repris, il aurait dit « si cette transformation est renversable, eh bien, il n'y aura pas d'hystérésis. » Autrement dit, le rouge, dès qu'on va faire disparaître la transformation, lui-même va disparaître et le solide va revenir à la forme initiale. Alors, j'ai préparé une petite expérience, j'espère qu'elle va fonctionner. Peut-être pas tout de suite, parce que mon eau n'est pas suffisamment chaude. Là, j'ai peut-être besoin pour qu'on le voit. J'ai ici, entre les doigts, un cube. Ce cube, il est constitué de boules, et puis il y a des tiges métalliques qui sont en nitinol, c'est un alliage de nickel-titane. Donc on est bien dans le domaine métallique. Je lui fais subir un traitement atroce. Donc je l'ai déformé, vous voyez la plasticité. Bien, alors lui, je relâche l'effort, il ne revient pas exactement à sa forme initiale. Bon, ça veut dire, parce que j'ai fait un changement de phase, il faut que je, pour faciliter le retour à la forme initiale, que je chauffe un tout petit peu. Alors j'espère avoir chauffé suffisamment. Donc je vais mettre de l'eau, elle est, je ne sais pas, 50, 60 degrés, quelque chose comme ça. Je le trempe à l'intérieur. Et voici le cube qui est revenu. Bien, donc là, je viens de vous montrer ce que l'on appelle les alliages à mémoire de forme. Alors, je sais qu'il y a eu une conférence mercredi où on a parlé de matériaux intelligents. Je ne sais pas ce que l'on met sous le mot intelligent. J'ai été malheureusement pris en cours, donc je n'ai pas pu y assister. Ça fait partie de ces matériaux intelligents. Une des grandes applications de ces matériaux, c'est... je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore un chirurgien. Une des applications, c'est quand on a des problèmes avec nos propres tuyauteries, je parle des artères, c'est l'implantation des stents qui de plus en plus se font avec des alliages qui présentent de la super-élasticité, qui sont des alliages type nickel-titane. Une autre application, beaucoup plus poétique, c'est le projet KEO, dans lequel Jean-Marc Philippe va enfermer dans ce satellite qui va faire à peu près 800 mm de diamètre toute notre part du savoir, et puis ceux qui viendront après nous dans 50 000 ans, quand le satellite sera redescendu, auront la chance d'ouvrir cette sphère. J'espère qu'ils découvriront que ce que nous avons fait était bien. Pour que le projet soit encore plus beau, on a rajouté des ailes au satellite. Ces ailes disparaîtront au bout d'un certain nombre d'années. Et pour que les ailes fonctionnent, comme il n'y a aucune source d'énergie, on va utiliser le principe des alliages à mémoire de forme. Et à ce moment-là, suivant l'orientation du satellite, suivant qu'il soit à l'ombre ou au soleil, eh bien, le satellite battra des ailes grâce au nitinol. Bien, alors la plasticité, je vais vous montrer. Je vous ai pris Elle est très liée, évidemment, à l'état structural du matériau. Donc, je prends un morceau d'aluminium, il est traité, je l'incline toujours sur ma bande, je vais le remontrer ici. Vous voyez qu'il n'a pas changé de forme, donc il est resté élastique. Hier soir, j'ai pris cette bande d'aluminium, une autre, sa petite sœur, je l'ai portée dans un four à 495 degrés. Alors, il y a des gens spécialistes d'aluminium, peut-être, dans la salle. Ça veut dire que j'ai fait une mise en solution du cuivre. Et puis, je l'ai trempé très, très rapidement. Et puis, très rapidement, j'ai fait la même expérience. Vous pouvez me faire confiance. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, on a rendu le métal plastique en faisant un traitement thermique. La dite expérience, je l'ai faite également. Je vais la faire devant vous. J'ai dû transporter mon matériau dans un récipient qui contient de l'azote liquide. Donc, juste à la sortie du four, j'ai trempé le matériau pour que le cuivre ne se rassemble pas, ne donne pas ce que l'on appelle des zones GP. Là, je suis en train d'évoquer un phénomène extraordinaire qui est le durcissement structural. Alors, il est à la température ambiante depuis qu'on commence la conférence, donc le cuivre commence à se rassembler. Néanmoins, je vais essayer de m'assurer. Oui, exact, ça marche. Donc j'insiste bien, c'est le même matériau. S'il est traité, il se déforme élastiquement, au contraire. En l'ayant hyper trempé, il se déforme beaucoup plus. Alors j'ai quelque part un traitement thermique en cours. Et si tout va bien, à la fin de cette séance, je vous montrerai qu'en traitant le matériau, je peux à nouveau le rendre dur. Cette plasticité, elle est due à ce qu'on appelle les dislocations. Alors, les dislocations, les cristaux métalliques, là, les petites boules symbolisent des atomes. Si on voulait faire un cristal parfait, ben, tous les plans atomiques seraient parfaitement alignés. Si vous avez regardé la constitution, par exemple, d'un épi de maïs, j'ai failli m'arrêter, mais c'était au bord de l'autoroute, c'était un peu dangereux pour cueillir un épi de maïs ce matin, vous pouvez constater assez facilement que les grains, de temps en temps, ne s'alignent pas parfaitement et qu'on a un plan supplémentaire. Donc là, on va avoir un endroit où le cristal est fortement distordu. C'est ce que l'on appelle une dislocation. La ligne de dislocation est perpendiculaire au plan du tableau, et ce qui va la caractériser, ça va être le défaut de fermeture, ce que l'on appelle le vecteur de Burgers. Alors ces dislocations, pour comprendre pourquoi elles nous permettent d'expliquer la plasticité, c'est très facile, je vais essayer de l'expliquer, c'est dangereux de dire ça. On a un problème théorique. S'il n'y avait pas de dislocation dans un cristal, et qu'on veuille le déformer, eh bien, il va falloir tirer sur les liaisons atomiques. On peut faire un petit calcul assez simple, et on trouve qu'il faut à peu près le dixième du module Young avant d'arriver à déformer plastiquement de cette façon. Or, l'expérience montre que les métaux n'ont pas du tout ça comme limite d'élasticité. Ce n'est pas le dixième, ce n'est pas le centième, c'est souvent le millième. Donc, il y a deux ordres de grandeur pour expliquer la limite d'élasticité des matériaux métalliques. Et c'est pour ça que les théoriciens ont travaillé au début de la guerre, ou juste avant la guerre, je veux dire, en inventant ce concept de dislocation qui n'a pu être observé que bien après. Alors pour l'expliquer, imaginons que vous soyez chez vous, dans le salon ou dans la chambre à coucher, que vous ayez un tapis et que vous vouliez déplacer le tapis. S'il n'y a pas de cran sur le tapis, vous allez devoir tirer très fortement. Et le tapis va être extrêmement difficile à déplacer. Chacun sait que c'est très facile de déplacer un tapis. Il suffit de faire une petite onde et de faire propager cette onde. L'image de la dislocation, c'est ça. C'est qu'en fait, plutôt que, j'allais dire, bêtement, entre guillemets, assurer la continuité de la déformation sur tout un plan, on ne le fait que localement. Et quand le morceau du tapis aura passé, on aura une marge qui aura été créée. Deuxième idée, vous comprenez bien la notion de taille. Imaginons que votre tapis soit un patchwork, que vous ayez instauré une règle, qu'entre chacun des carreaux du patchwork, vous ayez mis des petites épingles. Ça, c'est mes joints de grain. Eh bien, vous comprenez bien que plus le patchwork va avoir une maille fine, plus ça va être difficile de déplacer votre tapis, puisque les conditions de continuité d'un grain par rapport à un autre devront être vérifiées. Donc on sent bien que si on veut faire un matériau métallique très dur, il y a une chose sur laquelle on peut jouer, c'est la taille de grain. La taille de grain pour les matériaux ferreux, je vous dis couramment à l'heure actuelle, on fait du 5 microns. On projette en 2010, si tout va bien, c'est-à-dire si les chercheurs ont le bonheur de trouver, qu'on trouve surtout des procédés qui industriellement soient rentables, vraisemblablement nous serons descendus en dessous du micron. On ose espérer faire 0,1 micron au stade industriel. Il existe déjà ce que l'on appelle des nanomatériaux, des nanograins, mais ce n'est pas encore vraiment, tout du moins pour les usages, disons, très courants, encore au stade industriel. Alors, je vous ai parlé beaucoup de dislocations, il faut quand même les voir. Vous en voyez ici, qui sont toutes ces lignes noires, et puis qui ici sont arrêtées par des obstacles que l'on a mis à l'intérieur du cristal. Et ces fameux obstacles, ce sont des précipités. Ça, c'est la première astuce que le métallurgiste a découvert, par chance, dans un premier temps, puis ensuite, grâce à la microscopie électronique, a réussi à faire tout un développement théorique. On met des obstacles dans le plan de glissement pour empêcher les dislocations de se déplacer, et de cette façon-là, on durcit considérablement les matériaux cristallins. Alors, tout ce que je viens de dire s'applique à basse température, c'est-à-dire dans le domaine où la déformation se produit par plasticité. En préparant cette conférence, je me suis dit qu'il fallait trouver un matériau qui se déforme à haute température. Alors, comme je ne voulais pas faire une expérience qui soit quand même trop dangereuse, me venir avec un four, un chalumeau, j'ai simplement été dans le laboratoire d'électronique et puis j'ai emprunté à notre électronicien un morceau de brasure qu'on utilise en microscopie électronique. Vous savez que cette brasure, c'est un alliage plomb-étain. Ils font à basse température, aux environs de 160, 180 degrés. Donc à la température ambiante, on est déjà à 0,7, 0,8 fois la température de fusion. Alors avec ce morceau, j'ai fabriqué un ressort. Un ressort qui n'a aucun intérêt mécanique, aucune propriété mécanique, mais qui peut-être va pouvoir me permettre d'illustrer mon propos. Je vais le suspendre. Il est simplement suspendu sous son propre poids. Indéniablement, vous voyez apparaître maintenant un phénomène qui dépend du temps, c'est ce que l'on appelle le fluage. Si vous preniez un chronomètre, vous verriez que la vitesse de déplacement, ici, elle est constante. Deuxième observation, j'espère que vous pouvez le voir avec la caméra, oui, c'est bon. On constate que si on part des spires du bas, qu'on remonte vers le haut, la distance entre les spires varie ici, tout du moins dans ce domaine, quasiment linéairement avec le nombre de spires. Vous avez compris que ce ressort travaille en cisaillement. Si ça varie linéairement avec le nombre de spires, comme le chargement est dû simplement au poids, à son propre poids, nous venons de démontrer expérimentalement que la loi de fluage est une loi du type vitesse de déformation constante, puisque la déformation varie linéairement avec le temps, constante, mais proportionnelle à la contrainte. Si vous regardez, il me plaît de penser que sur la partie supérieure de mon ressort, cette loi n'est plus vérifiée. Je crois que si on traçait la distance entre les spires, on verrait à partir d'ici, là, quelque chose qui varie beaucoup plus vite. Il varie beaucoup plus vite, ça veut dire que, tout simplement, la partie supérieure du ressort étant beaucoup plus chargée que la partie inférieure, ben, quand forte contrainte, la loi de fluage n'est plus une loi linéaire en contrainte, mais dépend beaucoup plus rapidement de la contrainte. Et on pourrait montrer, en faisant des modèles de dislocation, que quand on est dans ce domaine de contrainte-là, on a des lois du type epsilon point proportionnel à sigma puissance 3 ou 4. Bien, donc cette expérience toute simple est en fait pour, j'avais dit, comme je ne voulais pas écrire d'équation, le démontrer expérimentalement. Vous comprenez qu'en ayant longtemps travaillé, les gens des matériaux métalliques sont arrivés à établir des cartes de déformation de ce type. Alors en abscisse, ça c'est les cartes de... Le premier à avoir initialisé ceci de façon massive, c'est le professeur Mike Ashby, qui est à Cambridge maintenant, en Angleterre, avant d'avoir été aux États-Unis pendant longtemps. On porte en abscisse une température réduite, c'est la température divisée par la température de fusion, en degrés Kelvin. En ordonnée, une contrainte réduite, c'est la contrainte que l'on impose divisée, par exemple, un module de cisaillement. Et en ayant étudié tous les mécanismes, on délimite dans le plan des domaines tels que, ben, si tout allait bien, qu'il n'y avait pas de dislocation sur la partie supérieure, on aurait précisément le dixième du module. Les dislocations et leur glissement nous donnent ce domaine ici. Et puis, dans le domaine, j'ai travaillé sur le plomb éteint, j'étais à peu près à 0,8 fois la température de fusion. Le bas du ressort, les contraintes étaient très faibles. Cette carte de déformation me dit que là, la déformation ne se fait plus du tout par dislocation, mais simplement par transport de matière. Je peux très bien imaginer de déformer de la matière de telle sorte que si je veux l'allonger, je vais chercher de la matière sur les faces latérales de mon prisme et je vais l'apporter sur les faces supérieures. Ça va être un mécanisme de diffusion, cette fois-ci. Les glaciers ne se déforment que de cette façon-là. Les matériaux métalliques, lorsqu'ils sont sollicités à très haute température, doivent être conçus de telle sorte que lorsque ces mécanismes agissent, eh bien, on ait des vitesses de déformation très faibles. Bien, alors cette introduction un peu longue étant faite, je vais passer maintenant aux applications. Alors la première application, basse température. Nous avons fêté il y a 4 ans le centenaire de l'alliage Invar, qui est fabriqué par la société Infi, qui a été inventé précisément en 1896. Alors, de quoi s'agit-il ? Ben, si on veut faire un navire qui transporte du gaz de pétrole liquéfié, ou des gaz à très basse température, comme moins 160 degrés, si on verse, disons, pour parler simplement, pour refroidir le bateau à moins 160 degrés, ben, il va se passer la même chose que pour la Tour Eiffel, sauf que pour la Tour Eiffel, j'avais pris un écart simplement de 20 ou 30 degrés. Ici, ça va être 10 fois plus. Donc le bateau va diminuer de longueur considérablement. Bon, il n'aura pas la chance de diminuer de longueur beaucoup. Il va se casser. Donc il a fallu inventer les matériaux. C'est un des procédés. La licence est de gaz transport. À l'intérieur, le bateau est fait en acier classique. Mais à l'intérieur, les cuves sont faites en Invar, qui est un alliage fer-nickel, qui est un fer 38-40% de nickel, qui a un coefficient de dilatation qui, au lieu d'être de l'ordre de 2·10⁵, n'est que de 0·2·10⁵. En jouant même sur la teneur en nickel, c'est lié à la transformation liée à l'existence d'un point de Curie dans ce système, on peut régler le coefficient de dilatation de cet alliage comme l'on veut. Une des grandes applications de cet alliage, c'est également la télévision haute définition. Télévision haute définition, on ne s'en doute pas, mais derrière la partie de verre, il y a un écran métallique percé de milliers, je ne sais pas combien, 10 000, 20 000 trous, qui, chaque petit trou passe les trois informations primaires pour fabriquer la couleur, et ces trous chauffent normalement. Si c'était ils chauffent, parce qu'il y a de la dissipation. Et s'ils étaient faits avec un matériau qui a un coefficient de dilatation de 2·10⁵, ben on serait amené à râler sur la qualité de la télévision. Donc on utilise, c'est le grand débouché de ce matériau, dans les shadow masks qui sont derrière les télévisions. Alors le problème des basses températures, c'est quand même, il faut que je la fasse l'expérience pour les gens qui n'auraient pas réalisé ça, c'est qu'à basse température, les matériaux métalliques peuvent devenir fragiles. Donc j'ai entre les doigts un morceau de zinc, c'est ce qui sert à couvrir les toits de Paris. Je suis à température ambiante, Ce matériau est parfaitement plastique, il ne rompt pas, ne casse pas. Je prends une autre bande de ce matériau, pour ne pas me brûler les doigts, c'est de l'azote liquide qui est dans ce récipient. Je ne vais même pas attendre qu'il arrive à moins 196 degrés, je le refroidis un tout petit peu, je vais me brûler un tout petit peu les doigts, et puis je vais le plier le long de ça. Ça a marché. Oui, là je ne tiens pas parce qu'il est vraiment froid. Il a cassé de façon parfaitement fraîche. Bon, alors ça, vous ne ferez jamais monter un ouvrier quand ça gèle sur les toits. Enfin, j'espère qu'il connaît suffisamment de métallurgie parce qu'il s'expose à de graves dangers. Bien, alors je vais revenir au transparent. Alors ceci se traduit par le fait qu'on repère en fonction de la température, en ordonnée. Alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est une grandeur extrêmement importante, c'est la notion de ténacité. Alors la ténacité, vous voyez les unités, ce sont des MPa racines de mètre. Ça c'est la grande découverte de Griffiths, un théoricien qui travaillait dans l'industrie aéronautique, et son patron ne comprenait pas pourquoi il passait son temps à casser des plaques de verre. Et bien, il nous a fait toute la thermodynamique de la rupture fragile. Et puis 1957, c'est George Irwin qui, aux États-Unis, fait toute la théorie mathématique. Oh, c'est facile à présenter. On peut, si je prends ça, c'est un matériau, je tire dessus, il ne casse pas. Si je veux qu'il casse, je fais une fissure dans mon matériau et il casse beaucoup plus facilement. Si je trace la contrainte que j'impose en fonction de la racine carrée de la longueur de la fissure, je trouve que le produit de la contrainte que j'impose multipliée par la racine carrée de la longueur, qui c'est ce que l'on appelle la ténacité, est une constante intrinsèque d'un matériau quand les essais sont réalisés d'une certaine façon. Vous comprenez bien que cette notion de ténacité, c'est extrêmement important. Quand on lit ce qui s'est passé sur les RICA, ce que le capitaine a dit le lendemain, vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Je suis monté sur mon bateau faisait un gîte de 15 degrés, il y avait une fissure qui faisait 3,50 m, il y avait 2 ou 3 cm entre les lèvres. Alors j'utilise ça souvent pour faire calculer à nos étudiants la valeur du facteur d'intensité des contraintes. À haute température, pas de problème. Les matériaux sont parfaitement ductiles, c'est comme mon zinc à température ambiante. Le problème, c'est que lorsque l'on va descendre la température, les matériaux peuvent devenir fragiles. On a ce que l'on appelle une transition entre le ductile, et le fragile. Vous avez sur ce transparent une autre chose qui va me permettre de faire la transition avec le deuxième type d'application que je voudrais couvrir, c'est le domaine des grandes vitesses. Le pâté vert indique la dispersion que l'on a. Vous voyez que ce pâté vert est situé à gauche du pâté bleu. Le pâté bleu a été obtenu à une vitesse de sollicitation, on va parler de dk sur dt, en k point, de 10 puissance 4 MPa racine de mètre par seconde, tandis que celle-ci, c'était 2. C'est-à-dire qu'il y a 10 puissance 4 en vitesse d'impact. Donc, disons, pour parler simplement, celle-ci, c'est un essai qui dure plusieurs minutes. Cet essai, c'est un essai qui dure une milliseconde, ou je ne sais pas, ou 10 millisecondes, et puis ici, si on va de plus en plus vite, ben ça va être des essais qui vont durer des quelques dizaines de microsecondes, et vous voyez apparaître quelque chose qui, du point de vue technologique, est évidemment extrêmement important, c'est que vous avez un glissement de toutes ces courbes vers les températures supérieures, y compris, comme nous vivons encore jusqu'à preuve du contraire, plutôt ici que là, de sérieux problèmes technologiques au voisinage de la température ambiante. Donc, il faut impérativement résoudre ces problèmes. Alors, ceci m'amène justement à faire la transition avec les grandes vitesses de déformation. Alors, comme je vous l'avais annoncé dès le début, pour illustrer les grandes vitesses, je vais cette fois-ci m'intéresser à l'industrie automobile. Bon, vous avez le résultat d'un crash. Elle est fortement endommagée, notre voiture. La partie avant gauche est en état, la partie à droite a une sale allure. Vous savez que l'enjeu ici, nous avons maintenant couramment tous nos véhicules, les normes, j'ai pu bien vérifier, doivent passer 57 ou 58 km/h en choc frontal. Bon, il sort des voitures, je n'ai pas été au salon de l'automobile. On va très rapidement arriver à développer des voitures où on va pouvoir tenir à 70 km/h. Alors, pour tenir 70 km/h, le dessin des pièces doit être tel que l'astuce, c'est que la voiture se déforme de façon à ce que le passager, lui, ne se déforme pas. Donc, il faudra qu'il y ait une rentrée dans l'habitacle et il faut que tout l'ensemble se distorde. Alors, il y a bien sûr beaucoup de calculs de structure, mais il me plaît de penser qu'il y a beaucoup de problèmes de matériaux également dans cette affaire. Donc, il nous faut impérativement développer des aciers qui tiennent à des grandes vitesses de sollicitation. Alors, tous les matériaux, y compris l'acier, j'allais dire, mais surtout les matériaux qui ont une structure cubique centrée, ils ont la propriété, j'allais dire, passez-moi un peu cette expression, comme les ânes. Plus on leur tire dessus, plus ils sont résistants. Et effectivement, quand on regarde les courbes donnant l'évolution de la contrainte de déformation en fonction de la vitesse de sollicitation, les aciers résistent beaucoup. Le drame, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à grande vitesse, si on n'y prend pas garde, on peut tomber sur de la fragilité. On conçoit aisément que l'énergie qu'il faut absorber dans un crash automobile, c'est le produit quand même de la force multipliée par le déplacement, donc il nous faut impérativement des matériaux extrêmement ductiles. Alors, ce que je vous montre ici, il y a à la fois l'existant et ce qui va arriver. En abscisse, vous avez l'allongement en pourcent. Vous faites un essai de traction sur une barre qui fait 100 mm de long. Si elle s'allonge de 1 mm, ça fait 1% d'allongement. En ordonnée, vous avez la résistance, qui sont des newtons par mètre carré, ce sont des MPa. Et puis, le problème des gens qui développent des matériaux, c'est de trouver un bon compromis. Un bon compromis, on dirait, faisons la course aux hautes résistances. C'était indéniablement l'idée directrice il y a encore 20 ou 25 ans. Ou au contraire, faisons la course aux grands allongements. Les gens qui vont faire de l'emboutissage veulent des matériaux qui s'emboutissent de façon profonde. Et puis, ce qui est raisonnable, c'est de tirer entre les deux et de faire des matériaux qui aient un bon compromis entre la résistance et l'allongement. Alors, vous voyez des matériaux rouges, là. Vous n'en avez pas encore dans vos voitures. On ose espérer que dans peu de temps, c'est au stade du développement industriel, vont apparaître des aciers TRIP, ça veut dire Transformation Induced Plasticity. Alors, dans ces aciers, il y a beaucoup de connaissances métallurgiques, bien sûr, je ne vais pas les détailler, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que ça fait appel aussi un peu à mon mécanisme de déformation de cube, c'est-à-dire à une transformation qui est induite par la déformation plastique. Donc ces matériaux sont, bien sûr, il reste encore un certain nombre de problèmes à résoudre. C'est certainement une façon d'améliorer la tenue à grande vitesse. La deuxième façon, alors là on est beaucoup plus futuriste, j'y crois personnellement beaucoup. Bon, suivant que vous achetez Renault ou Peugeot, on dit que votre voiture est construite avec des longerons ou avec des brancards. C'est la même chose. Bon, alors, on a inventé ce matériau extraordinaire. Très peu dense. Ça ne devrait pas coûter beaucoup. On ne va pas alourdir. Vous savez que le problème de l'allègement est fondamental dans l'industrie. On ne va pas beaucoup alourdir le véhicule si à l'intérieur des longerons, je pense en particulier aux renforts latéraux, pour lesquels nous avons des problèmes, le renfort latéral sur une voiture est un problème encore plus difficile, on y met de la mousse, mais pas de la mousse de polyuréthane, mais de la mousse métallique. Vous avez ici des résultats de simulation qui montraient, c'est un longeron de laboratoire, c'est écrasé entre une presse, et puis à l'intérieur, il y a précisément de la mousse d'aluminium, Comme par ailleurs, il nous paraît qu'avec ces matériaux-là, on pourrait inventer des matériaux, là je parle un petit peu à des spécialistes, qui pourraient avoir un coefficient de Poisson négatif, du genre on tire dessus et en même temps, il s'allonge latéralement. On aurait peut-être une possibilité de renforcement des longerons de voitures ou d'autres applications particulièrement intéressantes. Là, je dis, mais en Allemagne, il y a déjà des... Enfin, pas au niveau des véhicules, des recherches qui sont faites. Bon, je ne veux pas vous détailler la déformation des mousses. Vous comprenez néanmoins aisément que si vous faites une section de ce matériau alvéolaire, on va profiter du fait que ce sont des petites poutres, et ces poutres vont se déformer plastiquement, ce qui fait que la courbe contrainte déformation, contrairement à un comportement linéaire, va s'incurver, et pour un niveau de contrainte donné, ben, on comparera l'air en bleu, qui est l'énergie absorbée dans le domaine de l'élasticité, par rapport à l'air en rouge que l'on aurait avec des matériaux alvéolaires. Donc, dans le principe, théoriquement, ces matériaux sont capables d'absorber beaucoup plus d'énergie. Alors, de toute façon, les problèmes de rupture à grande vitesse, là, je ne résiste pas, vont être traités abondamment. Nous organisons, on a inventé en France, c'est Georges Charpie, sa première publication, c'est juillet 1901, refaite à Budapest en septembre 1901, et nous organisons à Poitiers, au Futuroscope, le 2, 3, 4, 5 octobre, une conférence consacrée précisément à ces problèmes de rupture de matériaux et de la modélisation de cet essai technologique qui, grâce aux ordinateurs maintenant, est à peu près à notre portée. La dernière application que je voudrais mentionner, c'est cette fois-ci le transport par avion. Donc, vous avez ici l'image d'une des versions du CFM56. Demain, je crois que vous allez avoir, pour ceux qui viendront, il y a une conférence qui sera faite par quelqu'un qui est de la SNECMA qui va vous parler de matériaux qui sont des composites thermostructuraux. Moi, je vais vous parler des matériaux métalliques. Alors, quand on réfléchit ce que l'on peut développer avec une telle turbine comme ça, c'est absolument phénoménal. Quand je prends l'Airbus, je m'amuse toujours à faire des calculs d'ordre de grandeur, enfin c'est un petit peu ma spécialité toujours. Pratiquement, quand on met un Airbus en route, on développe pendant pas longtemps, une minute, mais il nous faut à peu près 20 à 25% d'une centrale électronucléaire de 900 MW pour faire décoller un avion. C'est absolument extraordinaire. Alors, dans les minutes qui viennent, je vais essayer de vous montrer où sont les problèmes. Enfin, il y en a plein de problèmes matériaux. Les problèmes, c'est que si on veut développer de telles poussées, le moteur que je vous ai montré, dans l'aéronautique, on parle en termes de poussée plutôt que de puissance. C'est un moteur de 30 000 livres, donc pour simplifier, 15 tonnes de poussée. Eh bien, on passe par des roues qui contiennent des aubes. Ce sont des roues plus ou moins grandes. Ça tourne très vite, c'est très chaud, et en particulier au niveau des aubages ici. Donc je vais mettre l'accent non pas sur cette partie-là que je connais très bien, celle-là que je connais aussi un petit peu moins bien, et je vais vous parler des aubes. Alors toujours au point de vue ordre de grandeur, si on regarde ce qui se passe dans une aube, j'en ai une ici entre mes doigts, c'est pas gros. Voilà, une aube. Ça pèse quelques centaines de grammes. J'y reviendrai dans un instant. Cette aube, elle est portée à des températures considérables, puisque pour avoir une poussée très importante, il faut des gaz extrêmement chauds. Couramment, à l'heure actuelle, on monte à 1600 degrés. Le métal, il ne peut pas être porté à 1600, il serait fondu. Donc il va falloir les refroidir, bien sûr, ces aubes. Et puis elles sont soumises, mais vraiment, à un traitement extraordinaire. Pratiquement sur chaque aube, on a un effort longitudinal équivalent à peu près à 4 tonnes. Et si on fait un calcul d'ordre de grandeur, de la puissance que chaque aube m'apporte, on a plusieurs centaines d'aubes dans un moteur, on arrive à des puissances équivalentes. Alors là, c'est 10 qui a été mis, enfin j'ai refait les calculs, c'est entre 1 et 10. Autrement dit, vous avez un objet quand même assez extraordinaire. Cet objet qui fait quelques centaines de grammes, en termes de puissance, pas pendant longtemps, mais en termes de puissance, développe pratiquement l'équivalent des 100 chevaux que l'on a sur un véhicule. Vous comprenez bien que le métal, dans ces conditions, il est soumis à un traitement de torture épouvantable. Je rappelle ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, ou je l'indique, que les températures au niveau du bord d'attaque d'une aubre, la température de gaz, là, 1650, au niveau du bord de fuite, 1450, puis il va falloir refroidir à l'intérieur, c'est creux. Donc on va faire un prélèvement d'air frais, quelque part, et puis avec des tas de choses que je ne détaillerai pas, on va réussir à la refroidir. Alors les matériaux qu'on va utiliser pour faire ces aubes, ben, ils doivent résister à des fortes contraintes, à des très hautes températures. Donc on est dans mon diagramme. Ça va ? Revenons, vous rappeler le diagramme qu'on avait construit ensemble très très vite, où on portait en abscisse la température, en ordonnée la résistance. Là, on est à très haute température, donc indéniablement, on est vers par là. C'est ce qui est indiqué par le rectangle rouge, les conditions d'utilisation. Ça, c'est un diagramme que je vais établir pour un matériau donné, par exemple celui qui a ce doux nom d'oiseau, Marem 200, une marque commerciale. Vous avez, en plus des domaines que j'avais délimités tout à l'heure, des courbes iso-vitesse de déformation. Donc pratiquement, si les calculs sont bons, en utilisant ce matériau sous forme polycristalline avec une taille de grain de 100 microns, on a des vitesses de déformation de l'ordre de 10-9 à 10-10 secondes moins 1. C'est comme mon plomb éteint. On est à haute température, les contraintes, ben, elles sont ce qu'elles sont. Si je suis dans le domaine du fluage intergranulaire, j'ai intérêt à augmenter la taille de grain puisque c'est un phénomène diffusionnel de transport. Si ça, c'est un grain, la matière, je vais la chercher sur ses faces pour la mettre sur la face dessus. Bien sûr, si je fais un grain qui est très grand, la distance que les atomes ont à parcourir va être d'autant plus grande. On montre aisément qu'à ce moment-là, la vitesse de déformation varie comme l'inverse de la taille de grain élevé à la puissance 2 ou à la puissance 3, suivant le domaine de température. La démonstration en est faite ici, sur l'autre partie du transparent. C'est le même matériau, toujours condition d'utilisation, mais cette fois-ci, la taille de grain a été portée à 10 mm. Et vous voyez que là, le 10-10, il est là, donc dans le domaine d'utilisation, ben on va peut-être être à 10-15, 10-16, ce qui veut dire qu'on aura gagné 5 ordres de grandeur, enfin on aura gagné le rapport des tailles de grains élevées à la puissance 2 ou à la puissance 3. Donc, poussons le raisonnement jusqu'au bout. Puisqu'on n'a pas besoin des joints de grains à haute température, si on peut, faisons des aubes monocristallines. J'avais 25 ans quand la première fois je suis allé aux États-Unis, Fersnyder, qui est l'inventeur des matériaux monocristallins pour les aubes, m'a montré ça et m'a dit « ça, c'est le matériau de l'avenir ». Donc c'est avec une certaine émotion que j'ai entre les doigts une aube monocristalline, c'est celle que je vous ai montrée. Il y a le pied de l'aube, et tout ça, tout le long, il y a beaucoup de savoir-faire dans cette aube. Je vous ai dit que c'est creux, il y a les cloisons. C'est un monocristal. Il n'y a pas de joint de grain, puisque les joints de grain nous embêtent, on a décidé de les supprimer. Parlons d'écoute. Je vous ai dit que l'acier valait 4 francs 50, ça pèse 300 grammes, donc si c'était en acier, ça vaudrait 2 francs, 3 sous. Ce que je vous montre ici coûte entre 10 000 et 15 000 francs. Donc les matériaux, quand on en a besoin, ben, on va mettre le prix. Pour faire une turbine, il faut absolument mettre le prix. Alors ce matériau, ben, il est monocristallin, il a à l'intérieur plein de choses. Pour le durcir, vous souvenez de mon schéma, on ne voit pas trop bien sur le rétro, mes dislocations qui faisaient le tour des précipités, ben là c'est pareil, on veut empêcher qu'elles ne se déplacent à l'intérieur du cristal, donc on va mettre beaucoup, beaucoup de précipités. Alors le précipité, c'est la phase sous forme de carré ici, découverte, mais alors vraiment par chance. Je crois que les métallurgistes là, et c'est pas assez, français, ne sont pas assez reconnus sur la scène internationale. Pour moi, c'est Pierre Chevenard qui a découvert ça, par chance. Là, vous voyez que la surface du plan occupé par les carrés, elle est plus grande que ce qui reste entre les carrés. Entre les carrés, c'est la matrice. On a ici des fractions de précipité qui commencent à avoisiner 70%. Donc pratiquement, ça n'est plus une solution solide, nickel-chrome, mais c'est plutôt ce que l'on appelle la phase gamma prime, à laquelle je faisais référence, qui, du point de vue cristallographique, a les propriétés que j'ai schématisées ici. C'est un réseau pseudo-cubique à face centrée. Les atomes, comme on doit, qui a une composition stoichiométrique du type Ni3TiAl, ça veut dire qu'on va mettre les atomes d'aluminium au sommet du cube et les atomes de nickel au centre. Juste pour ceux qui connaissent les dislocations, et je sais qu'il y en a dans la salle, ils savent que les dislocations parfaites dans un réseau cubique face centrée, elles vont de ce point-là jusqu'à ce point-là. On remarque que si on fait passer un vecteur de Burgers, on détruit l'ordre localement, puisque je vais permuter l'atome d'aluminium avec l'atome de nickel, et ça, c'est la source même du renforcement, une des sources du renforcement par gamma prime. Les gens qui sont très perspicaces auront remarqué que si on le fait deux fois, on rétablit l'ordre, donc ça veut dire que les dislocations doivent être appariées, et effectivement, c'est ce qu'on observe dans un certain nombre de cas. Le problème de ces matériaux à haute température, c'est que la phase gamma prime, elle vit dans une turbine. Quand on prend un moteur, la phase gamma prime, elle voudrait grossir. Elle voudrait grossir, donc il va falloir trouver des moyens de l'empêcher de grossir. Alors je vous en montre ici un précipité, ça ne sort pas bien. C'est dommage, j'aurais dû les mettre sur... Bon, vous voyez le précipité. Ah, c'est mieux. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un défaut de reproduction. Ce que vous voyez, ce sont des plans atomiques. C'est donc un cliché de microscopie électronique à haute résolution. C'est un ami japonais qui m'a envoyé ce cliché. Non pas qu'on ne puisse pas le faire en France, mais pour un détail sur lequel je vais venir dans un instant. Donc, c'est une structure, mon cube que j'avais montré tout à l'heure. Ce sont les deux plans 1-0-0. Que vous voyez ici. Ça, de là jusqu'ici, enfin, la distance entre chaque plan est de l'ordre de 2,5 angstroms, 0,25 nanomètres. Et une façon d'assurer la stabilité, on s'est dit, si j'ai mon morceau de gamma prime, alors qui fait quelques dizaines de nanomètres, si on arrivait à trouver une phase qui couvre les 6 faces du cube et qui crée une barrière de diffusion, tous les problèmes de grossissement de gamma prime seraient résolus. Et une nuit, avec Richard Cozard, qui est un fils, on regarde sur un cliché de diffraction et on voit des taches supplémentaires. Et on a eu beaucoup de chance. On a observé que dans ce cas-là, notre cube était couvert, vous le voyez ici, par une autre phase. Je parle ici, ce sont des distances de l'ordre de quelques cinquantaines d'angstroms, simplement, une deuxième phase, alors qu'on appelle gamma prime, gamma seconde, on s'arrêtera, après on pourra faire gamma tierce, qui a une structure cristallographique différente de la phase ici, mais qui contient du niobium. Or, le niobium est un élément extrêmement lourd, donc c'est une excellente barrière de diffusion, et on évite de cette façon-là les phénomènes de maturation. Alors ça, c'est encore des choses qui ont été vues au niveau du laboratoire. L'application, le problème de stabilité, mais comme le temps s'écoule, je vais passer très rapidement, c'est aussi le problème de stabilité sous contrainte, puisque quand on prend l'avion, je vous ai dit qu'il y avait 4 tonnes sur chacune des aubes, donc il faut se préoccuper du problème de la stabilité de gamma prime sous l'effet de contrainte appliquée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce problème en ce moment. Vous avez, je vais passer là-dessus, Vous avez vu en microscopie électronique mes petits cubes de gamma prime ici. Alors, c'est une image en champ sombre, pour ça qu'ils apparaissent clairs. Et puis, quand on fait vieillir le matériau sous une contrainte de traction verticale, ben, on constate que la forme de cube disparaît et on obtient des plaquettes. Donc, on obtient un matériau sandwich, gamma, gamma prime, gamma, gamma prime. Les propriétés, à ce moment-là, sont fortement altérées. Et qu'est-ce qui va intervenir dans ce phénomène ? Ben, ça va être les écarts à la cohérence. Il y a tout un problème de physique qui tourne derrière. Bien, je ne vais pas vous parler de la tenue à l'irradiation. Ça m'emmènerait un petit peu trop loin. Je pense qu'il est temps de tirer quelques conclusions de ce tour d'horizon très rapide, bien sûr. Bon, néanmoins, je dirais qu'en guise de conclusion, je voudrais tout d'abord exprimer tout le plaisir que j'ai eu à préparer cette conférence. J'ai essayé de vous montrer les aspects multi-échelles et multidisciplinaires auxquels nous sommes constamment confrontés quand on aborde ces matériaux. La métallurgie est une vieille dame, extrêmement honorable, et qui se porte très bien. Et c'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup à faire. La métallurgie moderne, en fait, n'a vraiment débuté qu'au début de ce siècle. Elle a débuté d'abord avec des gens qui avaient une façon de voir essentiellement chimique. C'est la grande époque où on inventait des diagrammes. C'est la grande époque également marquée par les gens qui avaient la science de l'observation. J'ai présent à la mémoire Henri Le Châtelier en France ou Albert Sauveur aux États-Unis. Puis, après la guerre et pratiquement simplement à partir de 60, on a eu 20-25 années au cours desquelles ce sont plutôt les physiciens du solide qui sont venus nous aider pour résoudre tous nos problèmes. Et depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, et en ce moment c'est le grand mouvement, c'est plutôt la mécanique. Et j'aurais dû rajouter une autre flèche, la simulation numérique, qui revêt une importance considérable. Alors, de quoi sera fait l'avenir ? Dans ce domaine, il est clair que de nouveaux alliages doivent impérativement être développés si on veut faire face à un certain nombre de problèmes techniques, comme ceux que l'on rencontre dans diverses filières de production d'énergie, du transport, de l'habitat, ou encore ceux que l'on rencontre directement ou indirectement quand on est confronté au respect de l'environnement. En guise de conclusion, je voudrais dire aussi tout le plaisir que j'ai eu à présenter cet exposé devant un auditoire aussi attentif. Même notre jeune, non, il est parti, si je comprends bien. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais aimé faire quelques remarques relatives à la formation, à l'enseignement, qui est mon métier. J'ai cru reconnaître dans la salle quelques personnes qui font le même métier, qui partagent les mêmes soucis. Et comme conclusion de la conclusion, et sous forme de boutade, je dirais que j'espère vous avoir convaincu que si les alliages métalliques n'existaient pas, il faudrait vraiment les inventer.
Bonjour. Je voulais revenir sur l'expérience que vous aviez faite avec le ressort. Vous avez montré ce que vous appelez le fluage. Et je voulais que vous reveniez sur le rapport de la température ambiante et de la température de fusion. Parce que vous disiez que c'était 0,7. Et ça, je n'ai pas très bien compris parce que la température de fusion, c'est 150 degrés apparemment. Et la température ambiante, là, on est à 20 degrés. Et bon, voilà, je voulais juste que vous précisiez ça.
Oui, sur ce genre de... Donc vous faites référence à... On n'a pas les transparents en ce moment. Bon, dans cette représentation, j'ai omis de dire qu'on parle de température absolue rapportée au 0 degré K. Donc, quand vous faites l'ambiante, on est pratiquement à 300 K. Et comme le matériau fond à 188 plus 273, on arrive, c'est comme ça qu'on arrive à 270. Le problème d'échelle de température.
Allez-y, il y en a une en haut. Allez-y, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis en bas, ici, coucou.
Tout en bas.
C'est affreux, son là.
Pardon, bonjour. vous avez parlé de la porosité. Bon, c'est très très bien. Ça donne des trucs légers, mais je pensais tout de suite à un autre truc. Moi, c'est l'oxygène, ça oxyde les structures métalliques. Alors, première partie de la question, les machins poreux, est-ce que c'est vachement plus oxydé ou oxydable? Enfin, je sais pas, je crois. Il faudrait vous m'éclaircissiez là-dessus. Et deuxièmement, un autre question que je vous demanderais, c'est qu'est-ce que c'est qu'un patchwork? Merci.
Bien, alors, les porosités dans le cas de l'aluminium, bon, je n'ai pas pu rentrer, je ne suis pas forcément celui le mieux placé pour décrire comment on les fabrique. Vous avez remarqué qu'on n'a pas l'éclat métallique. Et l'éclat métallique, c'est quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a de l'oxyde. De toute façon, vous le savez, le seul métal qui ne s'oxyde pas à la température ordinaire, voilà, faire attention, c'est l'or. L'aluminium, et c'est ça ce qui le protège, se revêt instantanément d'une couche d'alumine. Instantané. Donc il y a des problèmes d'équilibre thermodynamique et des problèmes de cinétique, mais c'est très difficile de... Je vous dis, il n'y a que l'or qui ne s'oxyde pas à la température ambiante. Donc certainement qu'à l'intérieur de... Si on n'a pas pris garde, on peut avoir à l'intérieur de certains pores du métal qui est oxydé. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour ce qui est de la tenue mécanique, dans la mesure où on permet des grandes déformations avant que les pores ne se rejoignent. Alors pour ce qui est du patchwork, pour moi, ce sont ces étoffes. On les fabrique de différentes façons, de différentes couleurs. Il y a du rouge, puis on coud du bleu à côté, puis du vert à côté. Alors je ne sais pas si ma définition est la bonne, mais j'ai l'impression qu'on doit la partager avec un certain nombre de personnes.
Oui, j'ai une question.
Tout en haut.
Vous avez montré en introduction un diagramme d'HB. J'aurais voulu que vous précisiez le domaine d'existence de ces mousses, justement, sur le diagramme.
Pardon, le domaine ?
On ne vous a pas bien entendu.
Je voudrais que vous précisiez le domaine d'existence de ces mousses sur le diagramme d'HB que vous avez montré en introduction. Un ordre de grandeur, du moins.
Je crois que sur le diagramme, les mousses métalliques ne sont pas encore... sur ce diagramme, j'aurais de la peine à retrouver maintenant... et il est là encore ? Ah non, non, c'est pas celui-là, c'est celui densité-résistance auquel vous faites allusion. Il y a des mousses, mais ce sont les mousses de polyuréthane. Alors, si j'arrivais à le retrouver, la densité, vous l'obtenez assez facilement, vous pouvez considérer que la densité va être divisée par... on peut aller jusqu'à 10% de la densité de l'aluminium, simplement. Donc ça flotte, hein, au-dessus de l'eau, très facilement. Donc vous allez gagner une décade sur ce qui était porté en abscisse. Alors ce qui est des problèmes de module, là aussi le module va beaucoup diminuer, donc on va se retrouver en dessous, bien sûr, dans la partie que j'avais cerclée en rouge. Ils ne sont pas encore placés, toutes ces mousses.
Monsieur.
Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Vous avez évoqué très brièvement les problèmes de corrosion, notamment en parlant de la tour Eiffel, qu'il fallait repeindre sans arrêt. Et puis vous aviez évoqué une tour en Inde, très vieille, qui ne brouillait pas. Alors je voulais avoir des détails, si vous en avez. Je vous remercie.
Oui, je crois que ça reste un phénomène qui n'est pas encore... Alors, donc je confirme que... Si vous prenez n'importe quel ouvrage concernant la corrosion, dans l'atmosphère que nous avons, disons à Paris, les températures que nous avons, les taux d'humidité que nous avons, le fer se corrode, prend une épaisseur d'oxyde qui va être entre 10 et 50 microns par an. La tour Eiffel a été faite, et c'est un fer bien particulier, c'est du fer pudelé, qui contient pas mal d'oxyde déjà à l'intérieur, donc déjà ça va l'aider un petit peu, puisqu'il y a déjà de l'oxydation à l'intérieur. Il n'y a pas rien que des oxydes de fer, il y a des oxydes de phosphore. J'ai eu l'occasion de récupérer un bout de la tour Eiffel, donc de faire une expertise. Donc c'est inéluctable, à cause si on ne fait rien. Alors comment peut-on se protéger contre la corrosion ? L'industrie automobile, vous savez, si on regarde, j'avais du zinc sur la table, la production de zinc dans ce pays, jusqu'en 1986, c'était d'à peu près 40 000 tonnes an. Vous regardez la situation à l'heure actuelle, on doit friser les 200 000 tonnes. Le passage de 40 000 tonnes à 200 000 tonnes, c'est 1986, c'est le moment où les grands constructeurs automobiles ont garanti les voitures pour 6 ans. Maintenant, on garantit les voitures même au-delà. Donc la tôle d'acier que vous avez dans une voiture, elle est protégée contre la corrosion par un dépôt de zinc, et maintenant sur les deux faces, assez mince, on n'en a pas besoin de beaucoup pour 10 ans, 5 à 10 microns, c'est amplement suffisant. Et vous ne le voyez plus maintenant dans les véhicules sortis depuis 15 ans, reconnaissez-le, de véhicules qui avaient une sale tête, comme on en voyait il y a encore 15 ans, avant que le procédé ne soit introduit de façon massive. Alors, ça n'est pas l'astuce qui existe sur la colonne de Delhi. Il n'y a rien à la surface. On est inquiet un petit peu, d'après ce que j'ai lu. Alors, il y a un ami dans la salle qui m'a... Je lui avais posé ce problème il y a 2 jours. Comme il est beaucoup plus adroit que moi avec Internet, il est allé voir sur Internet. On est un petit peu inquiet avec ce qui se passe avec cette colonne, parce qu'elle est tellement magnifique que les gens ont pris l'habitude maintenant, quand ils viennent autour, de poser les mains. C'est un signe comme quoi on peut se protéger contre ce qu'on craint tous, une autre variété allotropique de corrosion. Alors, y a des traces de doigts, et puis à partir de là, la colonne commence à se corroder. Alors, on n'a pas l'explication. Là, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je sais que j'ai un ami, c'est Jean Philibert, qui était amené à regarder ça. N'oubliez pas qu'il y a, et c'est peut-être ça l'explication, il suffit d'avoir peut-être quelque chose qui, à côté, se sacrifie par rapport au fer, si vous avez fait un petit peu d'électrochimie, et vous savez que le fer ne se corrode pas. Les pipelines qu'on enterre dans le sol sont protégées par la corrosion grâce à une protection cathodique. Alors, il y a peut-être quelque chose implanté à côté qui fait que le potentiel est tel que le fer ne se corrode pas. Mais je ne dis pas que c'est l'explication. Une autre qui me plairait de croire, c'est celle des dinosaures. Je m'explique. Le fer à l'état natif n'existe pas, sauf celui qui nous tombe du ciel. Parmi les météorites, vous avez 2 variétés. Vous en avez des minéraux et vous avez également des sidérites. Et les sidérites sont des alliages fer-nickel, puisque au-dessous de nos pieds, on nous a appris que ça n'est que du fer-nickel, donc je ne vois pas pourquoi au-dessus, il ne nous en tomberait pas. Puis c'est, vous savez, une des explications pourquoi les dinosaures seraient morts. Alors c'est effectivement peut-être là qu'il faut aller chercher, parce qu'il y a 1600 ans, la civilisation dans ce pays était bien meilleure et bien plus développée que celle que nous avions, nous. Mais il y a 1600 ans, on ne voit pas comment ils auraient eu des moyens d'élaboration. Cette colonne a 28 pieds de hauteur. Vous voyez, c'est quelque chose de très grand. Donc est-ce qu'ils avaient des fours, des forges pour arriver à le faire ? On ne sait pas.
Madame.
Bonjour, monsieur.
Encore 2 questions, madame.
J'ai 3 questions très courtes. Comment on fait, mais vous aviez dit que vous n'étiez pas bien placé pour ça. Comment on fait pour fabriquer les monocristaux métalliques et les mousses métalliques? Et je voulais savoir si les toits en zinc de Paris et d'ailleurs ne modifient pas leur dimension lorsqu'il fait très froid, s'il vous plaît. Merci.
Alors, je vais commencer par la dernière. Les toits de zinc, le zinc est un bon métal, qui, donc comme tout bon métal, se dilate et il a pratiquement le même coefficient de dilatation que le fer, donc de l'ordre de 2 × 10⁵. Donc, les toitures de zinc, quand il fait froid, elles ont tendance à se contracter. D'ailleurs, si vous avez l'oreille bien, et qu'il fait froid, on entend le zinc qui crie. Oh oui, Si on prend du zinc, on le refroidit, on le déforme à ce moment-là, on l'entend légèrement crier, parce que par plasticité, on crée des macs, et c'est ce qu'on appelle, donc je confirme, les toitures vont se rétrécir. Alors pour ce qui est des monocristaux, comment on fait ? Alors je ne peux pas aller dans le détail, d'abord, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de secrets dans cette affaire. Bon, on part d'un monocristal, donc il faut en avoir un. Ça s'appelle un germe. Puis à partir de ce germe, sur du métal fondu que l'on met dessus, à condition d'étirer suffisamment lentement, la méthode elle est connue, quand j'avais, enfin disons, j'étais étudiant, on détirait des monocristaux de cette façon-là, donc dans un gradient de température. Bon, où est toute l'astuce ? C'est de produire ça à des cadences industrielles. De façon à ce que ça ne dure pas un mois pour étirer un monocristal, parce que si ça durait un mois, vous risquez d'avoir un incident et de ne plus avoir un monocristal. Pour ce qui est des mousses métalliques, ça dépend desquelles. Ça, c'est de la mousse de nickel. Cette mousse, elle est faite à partant d'un primaire qui est de la mousse de polyuréthane. On dépose par procédé de vaporisation en phase vapeur du nickel. À partir de là, la mousse devient conductrice. Donc on finit de déposer du nickel par voie électrolytique. Et on se débarrasse du polymère en faisant une pyrolyse. Pour ce qui est de la mousse d'aluminium, il y a plus que de l'aluminium, il y a des particules à l'intérieur. Le procédé est connu. On insuffle un gaz. À ce moment-là, vous avez un bouillonnement qui se produit. Puis si ça se refroidit très très vite, bah, c'est comme quand vous faites de la cuisine, vous obtenez à ce moment-là une mousse, dans le principe.
Deux dernières questions, là, elles sont
vous d'accord. Vous avez montré dans votre conférence le développement de nouveaux outils intellectuels pour l'ingénierie des alliages. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, les alliages métalliques vont reprendre du terrain par rapport aux autres matériaux, comme les plastiques, et dans quel champ d'application ?
Oui, alors, je ne sais pas, vous avez quelles applications en tête ? Parce que c'est un grand débat, hein. C'est un grand débat. Alors, ben, je vais plutôt le traiter pour une application donnée, si vous voulez. Bon, l'industrie automobile, que je ne connais pas trop mal. Quand on regarde les chiffres, les polymères, effectivement, depuis 20 ans, ont cru, mais par rapport aux alliages métalliques, ça sature. Alors, derrière ça, il y a des problèmes, évidemment, de performance des matériaux qui interviennent, mais vous avez aussi des problèmes écologiques énormes. Et vous savez que les polymères dans l'industrie automobile, nous avons dû prendre, c'est parti de l'Allemagne, des dispositions très sérieuses de façon à respecter l'environnement. Donc pour l'instant, je ne partage pas votre point de vue en ce qui concerne tout du moins l'industrie automobile. C'est-à-dire que nos voitures, on les voit toujours faites encore avec beaucoup de matériaux métalliques, où je verrais plutôt les problèmes et des confrontations qui sont très dures. Du point de vue industriel, c'est par exemple l'acier contre l'aluminium. Si vous achetez une Clio, que cette Clio ait été fabriquée en France, le capot sera en métal, en fer. Vous mettez un aimant, enfin faites attention parce que vous risquez de rayer la peinture. Si vous achetez une Clio qui a été fabriquée en Espagne, le capot risque d'être en aluminium. Donc c'est plutôt là, à mon avis, que se trouve la grande bagarre à l'heure actuelle. Bon, et les masses mises en jeu ne sont pas du tout les mêmes. J'ai parlé de 800 millions de tonnes d'acier dans le monde. Pour ce qui est des polymères, on est à 80-100 millions de tonnes. Donc vous voyez, les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je crois que c'est comme toujours. En particulier, il y a une chose qu'il faut faire quand on veut faire le bilan, c'est ce qu'on appelle l'éco-bilan. Et l'aspect écologique va être très important dans toutes ces bagarres entre les matériaux. Pas si j'ai répondu complètement.
Dernière question, monsieur.
Oui, donc bonjour, monsieur Pinault, merci pour votre
bonjour, Philippe. Exposé.
Vous avez parlé dans la conclusion de certains soucis en termes d'enseignants. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui. Ben, c'est ce qui se passe dans le domaine des sciences, hein, de façon générale. Chacun sait que nos plus jeunes, quand ils ont 20 ans, sont moins attirés par, de façon générale, des études scientifiques. Dès le premier cycle, maintenant, je ne sais plus si c'est 20 ou 25%, mais c'est à peu près ce qui se passe. Toutes sciences confondues. sciences, entre autres physiques, qui sont nos domaines. Donc ça, c'est une préoccupation très lourde que l'on doit avoir, parce que je continue de penser que nous n'avons pas besoin que uniquement d'avocats, d'assureurs, que nous avons besoin de techniciens, de scientifiques, pour faire avancer nos problèmes de matériaux, entre autres, les problèmes de mathématiques, et ainsi de suite. Alors ce souci que l'on voit déjà dès le premier cycle est renforcé par ce qui est en train de se passer en fin de deuxième cycle, à l'heure actuelle, où on voit les jeunes qui ont 23, 24, 25 ans, qui sont au stade de choisir un métier, de commencer de se spécialiser un petit peu dans leurs écoles d'ingénieurs, on appelle ça les options, se faire deux choses. Soit ils se précipitent vers l'informatique, bon, c'est très bien, on a besoin de très bons informaticiens, trois choses ils font. Soit l'informatique, ben, très bien, on en a absolument besoin et on tâchera de les ramener chez nous parce qu'on a besoin d'informaticiens pour faire tous nos calculs. Bon, soit ils se précipitent plutôt vers ce qui tourne vers l'argent. Bon, ça, c'est, à mon sens, sûrement pas mal, mais un petit peu embêtant pour ce que l'on fait. Ou alors, la troisième chose qu'ils font, c'est ce que j'appelle le retour chez papa et maman. C'est-à-dire qu'ils, n'ayant pas choisi de faire un saut vers la technique, vers la technologie, c'est quand même ce que j'ai essayé de faire passer ce matin, ben, ils reviennent vers les sciences qui les ont élevés, et notamment les mathématiques. Je crois que c'est une source d'inquiétude qu'on ne peut qu'avoir. Et quand on voit ce qui se passe, pas uniquement dans ce pays, mais ce qui se passe, toute Europe confondue, on peut se demander ce que nous allons être dans 20 ou 30 ans si nous n'avons plus de gens qui continuent de faire des études sérieuses dans le domaine des sciences. J'ai bien d'autres préoccupations, mais ce sont les principales. Mais je pense que Philippe partage les miennes.
Merci.